Salut à toi, voyageur du quotidien. Je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves. Alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Salut, cher entrepreneur. Si tu nous rejoins pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Je vais te poser une question qui fait parfois mal, mais qui est souvent d'actualité quand on doit revoir son organisation. Te retrouves-tu parfois noyé sous un déluge de projets, cherchant désespérément à garder la tête hors de l'eau? Même sans aller aussi loin, l'art de gérer les projets n'est pas inné et ne nous est pas forcément toujours transmis. Et cela peut pourtant être utile, non seulement pour ta santé mentale, mais aussi pour faire de ton entreprise ce qu'elle peut et mérite de devenir. Ce nouvel épisode est ta bouée de sauvetage pour transformer ce chaos en une chorégraphie parfaitement synchronisée. Es-tu prêt à découvrir l'organisation millimétrée, sans perfectionnisme anxiogène, mais avec une efficacité qui fait du bien? Alors, c'est parti! Déjà, pour commencer, savoir gérer un projet et, plus encore, plusieurs projets simultanément est crucial pour la santé et la prospérité de ton entreprise. Une bonne gestion de projet te permet de maximiser les ressources, d'atteindre des objectifs stratégiques et de répondre efficacement aux besoins de tes clients. Cela implique une organisation rigoureuse, une planification souvent minutieuse et la capacité de prioriser les tâches tout en gardant un œil sur l'ensemble du tableau. Cependant, y arriver n'est pas toujours évident. Les pièges sont nombreux, la dispersion des efforts, le risque de burn-out, la sous-estimation des ressources nécessaires ou encore la difficulté à maintenir une vision cohérente entre les différents projets. Mais ne te décourage pas, il est tout à fait possible de gérer avec succès plusieurs projets. Tu peux déjà commencer par un et ensuite faire évoluer avec d'autres projets. Mais c'est intéressant de savoir qu'on peut aussi gérer plusieurs projets. L'adaptation de ta stratégie de gestion à tes propres méthodes de travail et à tes objectifs spécifiques est aussi la clé. C'est-à-dire qu'il faut que tu l'adaptes à toi, à ta stratégie et en fonction de tout ça, voir ce qui va fonctionner. En te dotant des bons outils et en restant flexible face aux imprévus, tu peux transformer cette complexité en une force qui propulsera ton entreprise vers de nouvelles étapes, voire de nouveaux sommets de succès et d'efficacité. On va commencer par la question de l'orchestration des projets. On va prendre l'image justement du chef d'orchestre aussi. Et là, on va parler de l'innovation et de la mise en place des projets de l'entreprise. Tu peux déjà commencer à t'inspirer par exemple de Leonard Bernstein qui même en dirigeant plusieurs symphonies savait quand chaque instrument devait entrer en scène pour créer une harmonie parfaite ou en tout cas la plus belle et harmonieuse possible. Leonard Bernstein était un célèbre chef d'orchestre, compositeur et pianiste américain, pour information. Il est notamment connu pour sa longue association avec l'Orchestre Philharmonique de New York et pour ses compositions, y compris la célèbre comédie musicale West Side Story, quand même. Dans ce type de métier, en tout cas, tu dois savoir gérer plusieurs projets et manager plusieurs membres d'une équipe simultanément. Alors, tout le monde ne va pas vouloir forcément devenir chef d'orchestre, mais il y a des moments, tu vas peut-être t'en rendre compte quand tu gères une entreprise, tu peux te retrouver à ce type de poste, d'une certaine manière en tout cas, à devoir gérer plusieurs choses, plusieurs aspects d'une entreprise. Ça peut être par exemple gérer la comptabilité, effectivement, mais aussi gérer le fait de créer des produits, le fait d'avoir aussi des accompagnements sous forme par exemple de coaching. Tu peux aussi devoir gérer par exemple la création de vidéos, le montage des vidéos, le partage des vidéos, la communication, la gestion des publicités. Alors parfois tu peux aussi le déléguer, mais on se retrouve assez rapidement à avoir plusieurs casquettes. Et si en plus il y a plusieurs projets, voilà, ça devient quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'à un moment donné, il y a des possibilités comme ça de s'inspirer de certains métiers, mais aussi de compétences qui sont utilisées dans ce cadre. Donc souvent, bien sûr, il y a de la concentration, de l'écoute. On y reviendra d'ailleurs sur la concentration parce que prochainement, je vais aborder quelque chose qui va pouvoir vraiment aider à être beaucoup plus focus. Donc reste en ligne sur le podcast parce que ça va pas tarder. Vraiment tout ce qui va aider à être plus focus, plus concentré, de pouvoir voir aussi de façon beaucoup plus claire ce qui est à prendre en compte. Pouvoir aussi communiquer clairement, parce que en gros, imaginez le chef d'orchestre, bah, il n'y a pas une bonne communication, une bonne adaptation entre lui et les membres de l'orchestre, ça peut vite devenir voilà, très très spécial. Donc à un moment donné, voilà, c'est plein de petites choses comme ça à connaître. Donc on va voir ça. Donc utilise par exemple aussi donc cette image, ça illustre en tout cas l'importance de la synchronisation et de la coordination dans la gestion de projets multiples. Utilise des outils, par exemple, de planification, de suivi aussi de projets, pourquoi pas. Ça peut être voilà, sous forme de diagramme de Gantt avec vraiment un visuel aussi qui est assez parlant, dans lequel tu peux le faire évoluer aussi si jamais il y en a qui prend un peu de retard. Sur Asana, par exemple, on peut le faire. Après, sur Notion, même, il y a des façons de le faire pour savoir quand et comment mobiliser les ressources. Tu peux aussi utiliser des techniques de post-it, tout simplement, avec des dates, etc. Ou voilà, des priorisations, ça marche bien aussi. Après, il faut savoir aussi équilibrer bah, au niveau des ambitions. Là-dessus, on va pouvoir évoquer Sheryl Sandberg, qui, en fait, elle c'est chez Facebook. C'est une personne qui jongle avec d'innombrables initiatives, tout en maintenant un équilibre entre vie professionnelle et engagement personnel. Alors, qui c'est une dirigeante, en fait, d'entreprise, donc là, américaine, hein, Facebook. En fait, elle est dirigeante d'entreprise, mais elle a surtout été connue pour son rôle de directrice des opérations à Facebook. Elle a joué un rôle crucial dans la croissance et l'expansion de l'entreprise. Elle démontre aussi qu'une planification minutieuse et la délégation sont essentielles pour équilibrer diverses responsabilités. C'est souvent comme ça qu'on y arrive en fait, en pensant à tous ces aspects, étape par étape, vraiment, voilà, à un moment donné, ça peut être le temps qu'on y met, ça peut être l'argent qu'on y met, ça peut être le réseau qu'on y met, ça peut être vraiment l'apprentissage, tout ce qu'on apprend au fur et à mesure qu'on y met, ça peut vraiment permettre de rééquilibrer. Si on peut commencer à y penser au plus tôt, tant mieux, mais en tout cas, à un moment donné, la planification, la délégation, ça va vraiment apporter, tu peux déjà commencer par de la planification. L'utilisation d'un agenda structuré et la fixation de limites claires entre le travail et la vie personnelle sont des outils pratiques, en fait, ici. Il y en a qui vont pas forcément faire de coupure, ça leur convient. Il y en a, ils pensent que ça leur convient, mais en fait, avec du recul, bah, ils se rendent compte que ça leur convient pas du tout. Il y en a qui aimeraient vraiment poser comme ça des limites claires pour être pleinement efficaces au travail et pleinement présents dans leur vie personnelle. Donc vraiment, à un moment donné, ça peut être vraiment quelque chose qui peut aider aussi à mieux gérer les projets quand tu peux avoir comme ça une vraie vie personnelle à côté qui existe. Parce qu'en fait, c'est toute une forme de nourriture, d'énergie aussi, voilà, de nourriture relationnelle, émotionnelle, etc., qui peut t'aider à pouvoir aussi perdurer dans ton entreprise. Il y a cette question effectivement d'équipe qui ressort là et dont on va parler aussi maintenant parce qu'en fait c'est vraiment une stratégie l'équilibre d'une certaine manière. Ça peut être un objectif, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément parfait, hein, voilà, il peut varier, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte comme faisant partie aussi d'une certaine manière de la stratégie. Stratégie, c'est pas toujours que des méthodes rigoureuses, hein, ça peut être aussi, je sais que j'ai besoin de repos, je sais que j'ai besoin de voir mes amis, je sais que j'ai besoin d'un certain équilibre, voilà, ça fait partie aussi de la stratégie. On peut prendre l'image du jongleur de verre. Si tu visualises un artiste, par exemple, de cirque qui jongle avec des balles de verre, chacune représentant un projet. Alors, on se dit, oula, attention, je peux le faire tomber. Mais lui, il sait qu'il doit les manipuler avec soin et précision pour ne pas en laisser tomber une seule. C'est quelque chose qu'il a appris. Il a commencé peut-être avec une balle en mousse. Ensuite, il a peut-être comme fait avec plusieurs balles en mousse. Puis après, il est passé à des choses plus fragiles. On voit bien, il y en a, ils vont faire ça avec du feu. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il a appris à faire, à manipuler, à exercer. Et c'est comme ça qu'il a gagné en précision. En fait, c'est ce que tu peux te dire aussi sur la gestion des projets, que ça soit un projet ou même par la suite plusieurs. C'est qu'au début, bah, peut-être que tu vas commencer avec une balle en mousse, tu vas la faire tomber, tu vas te dire voilà, j'y suis pas. Et puis après, à un moment donné, tu vas pouvoir de plus en plus gagner en précision, voilà, en connaissance, en expérience. Et tu sauras vraiment comment ne pas les faire tomber. Si c'est pas grave, voilà, bon, c'est pas la fin du monde, mais il y a des fois où tu te rendrais bien compte. Par exemple, un chirurgien, il a, voilà, il a du background, comme on dit, il a vraiment de l'expérience, et à un moment donné, il sait faire normalement une opération. Voilà, en tout cas, ils sont formés pour ça, et on a vraiment voilà, des personnes qui vont faire attention, qui vont être attentives, qui vont être vigilantes, qui ont une connaissance telle, voilà, millimétrée, comme je disais au début, qui va faire que ça va être de plus en plus clair, de plus en plus précis. Et bah, au début d'ailleurs, voilà, il ne va pas forcément lui-même faire des chirurgies, mais avec le temps, il va pouvoir commencer à participer, aider, et puis ensuite, plus tard, lui-même le faire, et le faire voilà, très bien. Cela symbolise en tout cas la délicatesse, en fait, d'une certaine manière requise dans la gestion des tâches multiples. Parce que souvent, on va imaginer qu'en gros, il faut juste les faire, quoi. Mais en fait, il y a des qualités de précision, de délicatesse, de soin qui se développent aussi dans tout ça. C'est fou hein, de se dire qu'il y a un côté délicat, mais c'est le cas, en fait, finalement. Adopte donc une approche méthodique et utilise, par exemple, des logiciels de gestion de tâches pour aussi garder une vue d'ensemble de tous tes projets. Ça va vraiment aussi t'aider. De voir un peu comment les choses se passent d'un point de vue un petit peu plus extérieur, avec plus de recul, ça peut vraiment aider aussi à gagner en précision. Donc ça aidera aussi sur voilà, la manipulation des balles en verre et donc des projets. Tu peux aussi utiliser le tableau des priorités. Regarde comment certains dirigeants s'y prennent. Par exemple, bah si on prend, bon, il y a par exemple Angela Merkel qui est assez connue là-dessus dans sa façon de fonctionner, bah, qui a dû gérer une nation, des crises économiques, des tensions internationales, tout en gardant le cap grâce à une stratégie de gestion du temps qui était ultra rigoureuse. Alors, sans tomber dans des excès qui ne te correspondent pas ou qui ne seraient pas forcément bons pour ton bien-être, bien sûr, voilà, ça c'est important. Ce qui est intéressant en fait, c'est que sa méthode implique de hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Et ça, c'est le cas, tu le verras, dans beaucoup, beaucoup d'endroits où il y a des projets qui sont à gérer. Donc, par exemple, similaire à la matrice Eisenhower pour une gestion efficace du temps. Et là, ça se classe donc en urgent, donc soit par rapport à l'urgence et à l'importance, en fait. Donc, ça peut être urgent et important. Ça, souvent, on le fait immédiatement. Important mais non urgent, bah, ça, on le planifie pour plus tard la plupart du temps. Urgent mais non important, bah, souvent, c'est les tâches qu'on a tendance à plutôt déléguer, en tout cas qui seraient intéressantes à déléguer, si c'est possible. Et ni urgent ni important, souvent, celle-ci, elle passe à la trappe. Et d'ailleurs, c'est souvent celle qu'il vaut mieux éliminer s'il faut faire du tri dans tout ça. Si tu n'es pas très politique ou que tu as un autre avis sur la question, tu as aussi Indra Nooyi, N2OYI, qui est en fait l'ancienne PDG de PepsiCo. Et elle a été reconnue pour sa capacité à gérer une multinationale de manière a priori efficace, tout en faisant face à des défis de marché complexes et en intégrant des stratégies de développement durable et d'innovation produit. En fait, derrière ce genre de gestion, il y a vraiment des stratégies donc là, de développement durable et d'innovation de produit. Mais il y a aussi souvent bah, voilà, la question de l'équilibre, la question de la gestion du temps, la question de la clarté, de la priorisation, de l'adaptation au marché. Voilà, il y a vraiment comme ça plein de choses à prendre en compte. Et tout ça, ça se fait sur des années. C'est pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas inné. Il y a peut-être des choses qui vont être plus faciles chez certaines personnes que chez d'autres, mais en réalité, c'est vraiment toute une façon de fonctionner qui s'apprend au fur et à mesure de la vie. Alors après, c'est vrai que ça va être plus en adéquation avec certaines personnalités, avec certaines personnes. Parfois, quand on part aussi de loin, bah, ça peut être plus... Voilà, on va avancer à son rythme. Mais en réalité, c'est vraiment quelque chose qui est envisageable. Il y a même des personnes qui sont parties de loin. On le voit sur tout ce qui est question, par exemple, de timidité, de difficulté vraiment à être dans le relationnel, qui, en faisant régulièrement des lives, par exemple, sont devenus ultra efficaces là-dedans, en fait, sont devenus même à l'aise, parfois des moments un petit peu plus compliqués, mais sont devenus tellement à l'aise que parfois ils sont passés, bah, David Laroche, par exemple, c'est son cas, il est passé à faire des conférences, même en anglais, des interviews en anglais, alors qu'à la base, il parle français. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on ne se soupçonne pas, mais qu'on est capable de faire. Après, il faut le vouloir. Après, il faut aussi s'en donner les moyens. Mais toutes ces techniques derrière vont vraiment aider et s'implémenter au fur et à mesure. Et donc, donner toute cette finesse. Hein, voilà. On va voir maintenant les techniques plus de haute voltige. On va commencer par le mantra. Alors, quelque chose qu'il faut se rappeler qui est important à penser, c'est-à-dire le focus sélectif. Plongeons dans l'art de la concentration, où comme un photographe par exemple, tu calibres l'objectif pour capturer l'essentiel et laisser le reste s'estomper. En gros, tu fais un focus comme ça et tu sélectionnes ce qui est le plus important. Cela implique de concentrer ton attention sur les tâches les plus cruciales et de minimiser les distractions. Ça ne veut pas dire les enlever complètement, mais tu mets ton attention sur ce qu'il y a de plus important. Après, tu adaptes bien sûr en fonction de là où tu en es dans une période. Si tu es malade complètement et qu'il faut que tu récupères, tu récupères. Mais si sur un temps un petit peu plus long, c'est quelque chose qui est important pour toi, ça veut dire que tu dois apprendre à concentrer ton attention là-dessus. Trouver des techniques qui t'aident à y aller. Comme la technique justement où tu te dis bah je m'y mets 5 minutes et on verra, voilà, au moins je m'y mets 5 minutes parce que parfois on voit le gros morceau, on se dit jamais je vais arriver à faire ça, j'ai pas envie. On peut essayer de le rendre plus fun. Par exemple, moi je travaille souvent avec une musique, ça peut être de la lofi, ça peut être parfois même selon ce que je dois faire. Si ça me demande pas trop de concentration, je peux mettre quelque chose un petit peu plus électro, un peu plus pop. Généralement, je mets pas forcément des choses en français parce que ça attire trop mon attention. Par contre, je vais mettre effectivement des choses qui sont plus en anglais ou alors de la lofi ou des trucs un petit peu plus instrumentales. Et puis en fonction aussi du rythme et tout, ça va vraiment aussi jouer sur ma motivation, je le remarque. Donc il y a plein de petites techniques comme ça qui peuvent aider. Donc n'hésite pas à les utiliser pour justement t'aider à concentrer ton attention sur ce qui est important. Des techniques aussi comme la méthode Pomodoro, ça peut aussi t'aider à maintenir ce focus. Donc la méthode Pomodoro, c'est une technique de gestion du temps simple mais efficace qui peut vraiment t'aider, voire révolutionner ta manière de travailler, surtout dans la gestion d'une entreprise. Je te montre rapidement comment ça marche. J'en parle régulièrement parce que c'est vraiment un sujet important, tout ce qui est au niveau de la gestion du temps. Tu divises ton travail en périodes de 25 minutes, appelées Pomodoro. Ça vient en fait de, voilà, du petit minuteur en forme de tomate, hein, Pomodoro, donc ça, voilà, c'est le nom en italien, séparé par de courtes pauses de 5 minutes. Après 4 Pomodoro, tu prends une pause plus longue d'environ 15 à 30 minutes. En fait, ça correspond plus à nos besoins. Cette méthode t'aide à rester concentré et à éviter l'épuisement en t'assurant des périodes de travail intensif suivies de repos nécessaires. Pour ton entreprise, cela se traduit par une productivité accrue, une meilleure gestion du temps et une réduction du stress, en fait, qui te permet de travailler donc de manière plus efficace et ciblée. Et c'est un cercle vertueux, dynamique. Voilà, donc tu peux utiliser 25 minutes, après il y en a qui utilisent d'autres temps. Moi j'aime bien marcher, j'aime bien fonctionner aussi avec des moments de bloc, c'est-à-dire où je sais que sur une journée ou un après-midi, je vais pouvoir me concentrer sur une tâche ou sur vraiment un axe précis. Ça m'aide à être beaucoup plus concentrée également. Puis après, vraiment, voilà, en fonction des priorités et de ce qu'il y a à accomplir, de pas forcément non plus mettre trop la pression. Suffisamment, on va dire, d'enjeux pour que tu te dises, voilà, je vais le faire, par exemple, pour atteindre tel objectif en termes de date réaliste, mais pas trop non plus pour ne pas te retrouver paralysé ou bloqué ou en difficulté. Voilà, et ça aussi, tu l'apprendras dans la gestion de projet avec le temps. Moi, il y a des fois où je me suis lancée sur quelque chose qui, en réalité, nécessitait plus de temps. Mais comme c'est la première fois que je le faisais, je pensais que j'allais faire plus vite. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Ça m'a permis de m'en rendre compte. Et voilà, et je me tromperai encore. Et dans le lot, il y a plein de choses que j'arrive de mieux en mieux à faire et que, voilà, il y a des choses que j'arrivais à faire tout de suite. Et en fait, c'est le cas de beaucoup de personnes de tester des trucs et de voir que ça, voilà, si ça prend ou si ça prend pas. Et ça fait partie aussi de la vie de l'entrepreneur, en fait. Vraiment, c'est important de se dire que c'est comme ça aussi. La vie d'entrepreneur, après, voilà, plus ou moins en fonction des objectifs qu'on se donne, c'est sûr. Mais si on l'a fait développer, en tout cas, oui. Donc voilà, c'est vraiment intéressant pour diminuer le stress. Et quand tu fais en sorte d'être dans un stress qui est à la limite présent, mais qui n'est pas un stress qui te rend malade, ou de vraiment pas ressentir même de stress, ça va vraiment être quelque chose qui va te permettre d'être beaucoup plus au clair, même dans ton entreprise. La tactique aussi de la pause productive, parce que si à un moment donné tu veux être dans la capacité de gérer des projets, bien évidemment qu'il va falloir arriver à le gérer simultanément, mais aussi mettre des pauses parmi tout ça. Sur ça, tu peux t'inspirer d'Ariana Huffington, qui prône les pauses justement pour refaire le plein d'énergie et ainsi gérer plusieurs initiatives, c'est son cas, avec un dynamisme qui est renouvelé. Et ça, elle en parle. Arianna Huffington est une auteure chroniqueuse et femme d'affaires. Elle est la fondatrice du site d'actualité Huffington Post, qui est très connu, et est également connue pour ses travaux sur le bien-être et la productivité. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine et qui l'éprouve et qui le pratique dans son entreprise. Et c'est vraiment quelque chose qui est scientifiquement même prouvé, on peut le dire comme ça, que les pauses vont participer à l'efficacité, à la productivité. C'est aussi l'art de les gérer, parce que si on est en pause non-stop, on n'avance pas, c'est sûr. Mais en tout cas, effectivement, de savoir les mettre à des moments. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que quand par exemple, je m'en suis rendu compte, si je me mettais à bosser à fond et que j'étais tellement dans le truc, c'est agréable, hein, mais que je prenais pas le temps de manger, que j'étais un peu trop dans l'excès. À un moment donné, je me rendais compte que j'aurais dû faire une pause plus tôt, parce que c'est comme si ça m'échauffait trop, quoi. Ça me brûlait un peu presque d'une certaine manière intérieurement. Ça m'épuisait, quoi. Voilà, je ressentais quelque chose de ce genre-là. Donc vraiment, c'est intéressant de prendre ça en compte et de s'inspirer, par exemple, de cette chef d'entreprise assez connue et qui est dans le domaine. C'est aussi un exemple qui peut être très inspirant, donc, et donner de nombreuses informations sur les compétences à développer ou à faire s'exprimer dans ce que l'on possède déjà. La clé ici, c'est de reconnaître que des pauses stratégiques augmentent la productivité globale. Des pauses courtes et régulières combinées à des activités relaxantes, comme la méditation ou une promenade, peuvent considérablement booster l'efficacité. Ces exemples démontrent l'importance d'une gestion stratégique du temps, de l'énergie et des ressources pour exceller dans l'entrepreneuriat et dans d'autres domaines de vie. Donc en fait, l'énergie, c'est clé. La question de la gestion du temps aussi, c'est clé dans la gestion de projets, un seul voire plus. Et la question des ressources, c'est clé. Et les ressources, il y a celles que tu as déjà et il y a celles que tu peux développer. Les capacités, elles peuvent être à la fois intellectuelles, sociales, humaines. Voilà, on a vraiment des capacités, des ressources. Ça peut être aussi des ressources, à des moments, ça peut être aussi des ressources financières. Mais c'est pas forcément que des ressources financières. C'est pas que le temps en soi. Ça peut être aussi, effectivement, la question de l'énergie derrière tout ça qui va vraiment faire une grosse différence. Donc, là où tu peux gagner de l'énergie, là où tu sens que tu prends de l'énergie, là où que tu en gagnes en tout cas, là où tu sens que ça te permet de garder une énergie, d'en avoir une qui t'aide, va vers ça. Et si à un moment donné tu vois que ça te pompe de l'énergie ou que ça ne te donne pas de l'énergie, ça peut passer par la nourriture, par l'environnement, par les relations, etc., ou par tes pensées même, attention, ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux améliorer pour te faire gagner, bien sûr en efficacité, mais aussi en facilité finalement dans la gestion de projet. Pour conclure, je vais te donner quand même un rappel rapide, justement, j'ai un rappel des points clés. Ajoute une marge de sécurité à tes estimations de temps. On ne le dit pas assez, mais ça, c'est vraiment essentiel. Moi, il y a des moments, je m'y reprends parce que je vois que quand on veut faire beaucoup de choses, on a tendance à un moment donné à oublier de se mettre des marges de sécurité. Parfois, on va se dire, j'ai pas le choix. Là, il faut que j'ai des revenus. Là, j'ai dit oui à ces projets. Là, je croyais que ça me prenait pas autant de temps et finalement, ça m'en prend. Voilà. Donc oui, bien sûr que tu peux aussi te tromper et te rendre compte que tu n'as pas ces marges de sécurité. Mais dès que t'en as pas, moi, je m'en rends compte, ça me rappelle à l'ordre au niveau de la santé, au niveau de l'énergie, du bien-être. Donc en fait, la question des marges de sécurité, elle est pas anodine. Vraiment, ça joue beaucoup. Tu peux aussi fixer des délais plus courts pour augmenter ton efficacité, tout en faisant en sorte, effectivement, qu'elles soient adaptées. Tu peux aussi utiliser des méthodes, y en a plein. Là, j'ai parlé, bien sûr, de Pomodoro, Eisenhower, la méthode des 2 minutes. Tu peux faire les blocs de temps, tu peux faire des découpages en petites sessions plus courtes. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui aident pour structurer ton temps de travail et ça peut vraiment aussi participer. Identifie et réalise les tâches à fort impact en premier. Ça, souvent, on dit effectivement c'est sur le livre de Manger le crapaud le matin là, qui est assez connu dans le domaine. Ça peut vraiment aussi aider de se dire je commence le plus grand au premier, comme ça c'est fait. Moi parfois ça m'arrive aussi de me mettre en jambe sur quelque chose d'un petit peu plus simple et ensuite de passer à ce qui a un fort impact pas trop tardivement, pareil pour bénéficier des deux. Parfois j'ai pas envie de faire le gros impact en premier Eh ben, je vais commencer par un petit truc qui met en jambe, un peu comme si on était en train de s'échauffer avant de faire une séance de sport. Et effectivement, si tu peux directement passer au gros impact, vas-y quoi. Agis dès maintenant pour créer un impact aussi à long terme. Alors, voilà, il y a des fois, faut pas non plus te dire que c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, tu peux commencer à mettre en place quelque chose aujourd'hui. Même un petit truc, quoi, un petit rien qui te semble anodin, commence. Ça peut être déjà de dire, bah, allez, je vais me faire une balade, ou là, je vais commencer à écrire un petit article. Voilà, je vais commencer à faire un post, je vais commencer à noter mes idées. Voilà, un petit truc, ça peut déjà être intéressant que tu commences aujourd'hui, et ensuite, ça va être effectivement dans le fait de le reproduire régulièrement. Et même si à un moment donné, tu le fais pas, tu le reprends où tu en es. C'est pas grave. On a souvent tendance à se juger en se disant oui, à chaque fois j'arrête, je reprends, voilà, je commence et j'arrête, comment dire, j'arrête toujours ce que je commence sans être allé au bout, par exemple. Bah, en fait, c'est rien que de penser comme ça, c'est pour ça qu'on ne reprend pas souvent. En réalité, si ça compte pour toi, que tu peux voilà, te remettre à ça, dépasse le jugement. Je sais que ce n'est pas toujours évident, il reste un peu dans un coin de la tête au début, mais c'est en passant à l'action que ça va passer aussi derrière. Et régulièrement, essayer de le rendre facile, de le rendre accessible, voilà, pour pouvoir justement commencer au plus tôt. Sois flexible et adapte-toi quand c'est nécessaire, bien sûr, voilà. Pas forcément que aux autres d'ailleurs, surtout, il faut aussi que tu sois flexible avec toi-même aussi à des moments. Et n'oublie pas, bah, tu peux nous soutenir avec 5 étoiles si tu as trouvé des pépites dans ce podcast. C'est ainsi que cela peut aider le plus de monde qui en a besoin, aussi bien pour justement booster et développer son entreprise comme voilà comme on l'entend, mais aussi bah, pour pouvoir le faire avec beaucoup plus de bien-être et de sérénité et de plaisir. Dans notre prochain épisode, Ralentir pour accélérer, découvre la puissance de la pleine conscience dans ta productivité. Tu vois, ça va être encore des points très importants. Voilà, je t'ai dit tout à l'heure que j'allais te donner des trucs en plus qui vont être hyper intéressants. Et nous ralentirons le tempo pour saisir comment des moments de calme peuvent propulser notre efficacité à des sommets inattendus. On va le voir un peu plus en profondeur et tu vas comprendre pourquoi, comment et ce qui va t'aider à pouvoir justement mettre plus de sérénité dans tout ça et comment aussi ça permet d'aller plus vite et plus loin finalement. C'est ça qui est assez surprenant, mais ça marche tellement, tellement bien. Ça aide à résoudre beaucoup de problèmes. Reste avec nous pour cette aventure introspective et n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumée, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.